L'armée allemande commençait déjà à battre en retraite. Qu'est-ce que l'insurrection de Varsovie représentait pour l'armée allemande?
Sur les plans stratégiques, Varsovie, qui dominait la Vistule et toute une ligne stratégique de la Vistule, était un très grand nœud ferroviaire et un nœud routier et un nœud fluvial. Et donc, la possession de la ville de Varsovie avait une très grande importance stratégique et tactique. D'autre part, l'éventuelle perte de Varsovie constituait un coup très dur pour le prestige allemand du fait que c'était la première capitale européenne qui a été prise par les Allemands en 1939 et du fait que la ligne de Vistule dominée par Varsovie était la dernière ligne de résistance avant le territoire national du Troisième Reich en 1944.
Dès la fin juillet 1944, les Alliés progressent à l'est et à l'ouest. À Varsovie, l'on entend déjà les coups de canon. L'armée soviétique s'approche de la capitale polonaise. Georges Monde, vous êtes à cette époque officier de liaison du commandement suprême de la résistance polonaise Armia Krajowa et vous recevez, ainsi qu'une dizaine de vos camarades, l'ordre d'aller vers les avant-postes soviétiques et de faire immédiatement un rapport sur la position des premiers éléments soviétiques aux abords de Varsovie. La question de savoir si l'armée soviétique pouvait aider l'insurrection de Varsovie se trouve encore aujourd'hui au centre des débats des historiens et des querelles politiques.
En effet, il y a deux thèses en présence. Une thèse qui penche plutôt vers l'impossibilité d'aider Varsovie par l'armée soviétique qui était épuisée par l'offensive qui durait plusieurs semaines. Et l'autre thèse qui penche plutôt vers le constat de mauvaise volonté du fait que, à cause de considération politique, l'armée soviétique ne voulait pas aider les insurgés à Varsovie. Et c'est l'aspect de querelle politique qui reste assez vivace aujourd'hui. Mais je voudrais plutôt me pencher sur les faits. Donc je me rappelle que le 28 juillet 1944, plusieurs officiers de liaison qui appartenaient au commandement de la résistance ont reçu l'ordre de quitter Varsovie et de prendre contact avec les éléments avancés de l'armée soviétique. Mes collègues et moi-même avons quitté le faubourg de Varsovie situé sur la rive orientale de la Vistule en progressant par deux. Une femme m'accompagnait et nous allions à pied à travers toute cette banlieue jusqu'à Mienzilech. Nous nous faufilions, je me rappelle très bien, parmi les détachements allemands en retraite, en nous enfonçant dans les bois éclaircis de cette banlieue varsovienne. Et enfin, nous avons aperçu des blindés soviétiques arrêtés dans les bois de Mienzilech. Ainsi, j'ai noté dans mon rapport au commandement suprême, les blindés soviétiques sont arrêtés dans les bois de Mienzilech. Les Allemands se retirent en ordre vers Varsovie. Les batteries de l'artillerie sont en position au terminus du tramway de Gocławek. Mes camarades rentrés du côté nord-est de Radzymin et de Wołomin m'ont également dit avoir aperçu des unités soviétiques. Au demeurant, quelques jours plus tôt, la radio soviétique a lancé aux Varsoviens un appel à l'insurrection. À ce moment-là, la perspective était très positive. Tout le monde attendait l'arrivée soviétique pour nous aider.
À votre avis, le commandement suprême de l'Armia Krajowa a-t-il eu raison de déclencher l'insurrection?
Comme vous le savez, les avis sont partagés, mais je pense qu'il fallait se battre. Le peuple polonais brûlait d'envie de participer à la défaite allemande, c'est naturel. Nous étions encouragés par les radios soviétiques, nous avons vu la retraite allemande, et l'arrivée imminente de l'armée rouge nous semblait incontestable. D'ailleurs, les Américains n'ont-ils pas respecté la volonté de l'armée française à l'époque, qui voulait entrer la première à Paris? C'était aussi la même chose en Yougoslavie. Donc, il me semble, et même aujourd'hui je suis convaincu qu'il fallait se battre.
Quel souvenir gardez-vous de l'insurrection?
Il y en a beaucoup. Comme pour tous mes pères, c'était une époque de jeunesse, de gloire, de fureur et d'espoir qu'une occupation ne peut pas durer toujours. D'ailleurs, vous savez bien ce que cette époque a représenté pour toute une génération, ma génération qui a été appelée à l'époque, et même aujourd'hui, c'est une génération des colombes. Non des colombes à cause des oiseaux, mais des colombes à cause de Christophe Colomb. Cette génération où ceux qui ne se sont pas battus constituaient plutôt une exception. Parmi mes souvenirs de cette époque exceptionnelle et combien difficile, je me rappelle par exemple une belle journée de septembre. J'étais déjà blessé et en route vers un hôpital souterrain. J'ai vu une maison à moitié détruite où un piano à queue était resté intact au premier étage. Et un ami blessé à la tête a couru immédiatement au piano au milieu du sifflement des balles et s'est mis à jouer l'étude révolutionnaire de Chopin. Peu à peu, les coups de fusil et des mitraillettes s'est taisés. Dans nos rangs polonais et chez les Allemands aussi, nous avons tous écouté l'étude. Et puis, les coups de feu ont recommencé.
Joseph Chapski, vous étiez à Paris au moment de l'insurrection de Varsovie. Vous aviez été fait prisonnier en septembre 1939 en Pologne par les troupes soviétiques. Vous êtes resté dans un camp jusqu'en août 1941. Et puis en 1941, vous sortez du camp et avec le général Anders, qui est votre ami, vous formez l'armée d'Anders et à travers l'Irak, l'Iran, la bataille de Monte Cassino, vous arrivez à Paris. Et c'est à ce moment-là que vous surprend la nouvelle de l'insurrection et vous essayez de réagir.
J'avais écrit une lettre ouverte alors, quand il y avait la révolte de Varsovie de 1944, dans un silence complet. On n'en parlait pas, on ne voulait pas en parler. Alors j'avais écrit cette lettre à Maritain et Mauriac, que j'avais bien connu avant la guerre, en leur disant... que nous ne vous demandons ni armes ni rien, nous demandons que vous disiez un mot sur ce qui se passe maintenant à Varsovie. J'avoue que je n'ai eu pas de réponse. Maritain était alors ambassadeur à Rome, et il trouvait que comme ambassadeur, il ne pouvait pas prendre la parole. Mauriac était tout à fait dans l'œuvre de Gaulle, qui alors jouait avec la Russie pour contrebalancer les influences trop fortes américaines et anglaises. Ce n'était pas dans leur intérêt de parler de ces malheureux Polonais qui ne font que se soulever et mourir. Mais j'avais fait cette lettre qui avait été beaucoup lue chez tous les Polonais, depuis Chicago jusqu'à Varsovie, parce que nos journaux arrivaient jusque-là clandestinement. Mais on s'imaginait que j'ai de grandes relations en France, et que je pourrais peut-être influencer les Français à quelque chose, mais c'était aussi une naïveté polonaise. Je connaissais beaucoup de gens d'avant-guerre, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Et je me rappelle seulement une visite chez Gide, que j'avais connue aussi avant, très peu, mais qui m'avait admirablement reçu. Tous s'intéressaient à moi parce que j'étais venu tout droit de Russie. Malraux m'avait reçu beaucoup, nous avons beaucoup parlé avec Malraux. J'ai été chez Gide et quand j'ai dit à Gide, voilà ce qui se passe, il s'est levé vite, vite. Il avait comme ça des mouvements très jeunes. Il s'est rentré dans ses cahiers de notes des journaux. Il m'a lu, mais presque avec une voix comme les actrices déclament de Racine. « Oh, peuple malheureux, quand enfin cesseras-tu de souffrir ?» Et puis, arranger le livre. Et j'ai vraiment eu l'impression, je suis méchant, mais vraiment, j'avais l'impression qu'il avait le sentiment qu'il est Goethe et qu'il a fait une chose énorme, bien plus qu'une armée, parce qu'il nous a... nous resterons dans l'histoire par ses journaux. Alors ça m'a beaucoup dégoûté, pas de lui, mais de mes efforts là-bas qui étaient tout à fait inefficients.